Bonsoir à tous. Hier, on a déjà commencé ensemble à regarder cette question « À quoi sert le christianisme ?». Pour ceux qui étaient là hier soir, nous avons regardé la situation avec un certain recul pour prendre conscience du fait que cette question que nos contemporains posent « À quoi ça sert le christianisme ?» est finalement appropriée parce que ce que le christianisme offre aujourd'hui après 20 siècles de christianisme semble ne plus être à la hauteur de nos besoins, de nos attentes, et semble surtout ne plus être en accord avec le christianisme du Christ il y a 20 siècles. Des auteurs contemporains montrent et réalisent le fait que le christianisme d'aujourd'hui est en tout à l'inverse de ce que la Bible nous a donné. Alors on se trouve dans une situation qui est finalement très curieuse, où le christianisme lui-même se trouve en décalage avec sa propre source, avec les Saintes Écritures. Alors, ce soir, j'aimerais regarder avec vous le deuxième sujet qui va nous préoccuper dans cette série sur le christianisme, c'est la question de la souffrance. Parce que cette question que l'on a posée hier, à quoi sert le christianisme, elle prend toute sa force lorsque la souffrance nous frappe d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que l'on tourne les questions vers Dieu, qu'on se demande à quoi sert Dieu, qu'on se demande à quoi sert le christianisme. Et j'aimerais reprendre cette question avec vous parce que je crois qu'il y a dans le mode d'emploi que Dieu nous a donné dans les Écritures, le moyen de comprendre la question de la souffrance beaucoup mieux qu'en dehors des Écritures. Alors ce soir, la question est simple. Que fait Dieu quand je souffre? Ou si vous voulez poser la question autrement, quel avantage le chrétien a-t-il sur le non-chrétien lorsqu'il est confronté à la souffrance? Est-ce que le chrétien a quelque chose de plus? Est-ce qu'il est mieux équipé pour faire face à la souffrance? Alors, on s'entend bien, je ne suis pas en train de dire que le christianisme, la parole de Dieu, va nous donner un antidote de la souffrance. Ou un anesthésiant suffisamment fort pour que le chrétien ne souffre pas alors que les autres vont continuer à souffrir. C'est pas de ça qu'il est question. Ce que je me demande, c'est de savoir est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu des outils pour que le croyant puisse faire face à la souffrance mieux équipé que le non-croyant. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce soir. La question se pose sous toutes sortes de manières, des livres sont publiés à ce sujet-là, et vous avez ici la publicité d'un livre, « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance, l'injustice ?» Et dans la publicité, le paragraphe qui était après, que j'ai reproduit ici, dit « Plus de 280 000 morts à cause d'un tsunami, 11 millions d'enfants meurent chaque année de faim et de maladie, pourquoi Dieu permet-il cela ?» Et vous le savez bien, quand la souffrance nous frappe, on pose la question. Mais enfin, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet que des enfants soient massacrés comme ça? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet que, et que, et que, et que, et que? Et j'entends souvent les gens poser cette question-là, et je suis souvent mal à l'aise, parce que quand on pose cette question-là, on sait qu'on n'a pas de réponse. Et on se sent fort quand il n'y a pas de réponse. Pose une question à Dieu, t'as une réponse? Non. On se sent fort de ne pas entendre une réponse, de ne pas avoir une réponse. Alors, j'aimerais ce soir poser des questions de façon à trouver des réponses. Ce ne sont peut-être pas les réponses auxquelles on s'attend, ce ne seront peut-être pas les réponses que l'on voudrait avoir, des réponses magiques, mais des réponses qui peuvent changer du tout au tout notre vision de la souffrance et de ce qui peut arriver dans notre vie. La souffrance se manifeste sous toutes sortes de formes. Ce sont des souffrances personnelles, ce sont des deuils, ce sont des problèmes relationnels, ce sont des catastrophes de différentes natures, ce sont des maladies fatales, ce sont des destructions de toutes sortes, ce sont des décès, soit suite à de longues maladies, soit des décès accidentels. Peu importe, la souffrance se présente sous toutes sortes de formes, mais quelle que soit la forme, la souffrance nous laisse démunis, nous laisse dans une recherche de réconfort que nous ne trouvons, hélas, pas toujours dans le christianisme d'aujourd'hui. Il est une parole dans le livre de Job, et nous allons regarder le livre de Job plus en détail tout à l'heure, une parole qui est présentée par un des amis de Job, et qui devant la souffrance semble vraie. L'un des amis de Job disait « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Autrement dit, faites pas de soucis, l'homme fait pour souffrir, souffrez tout ce que vous avez à souffrir, c'est normal. Non, non, non. On verra tout à l'heure dans d'autres passages ce que Dieu dit. Des plans, des projets qu'il a pour l'humanité, l'homme n'est pas fait pour souffrir. D'ailleurs, on s'en rend bien compte parce que lorsqu'on est pris par la souffrance, tout notre être réagit là contre. Tout notre être veut sortir de là. C'est comme la mort. Nous ne sommes pas faits pour être confrontés à la mort. Quand la mort nous frappe, il y a tout notre être qui réagit, là, qui s'insurge contre cet événement qui est totalement contre nature. L'homme n'est pas fait pour souffrir, cependant la souffrance est quand même présente. Dans son livre sur la souffrance, le docteur Paul Tournier a cette phrase que je trouve intéressante. Le docteur Paul Tournier est un médecin suisse qui, en soignant les gens, s'est tout d'un coup rendu compte, enfin au fur et à mesure du temps, s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas simplement de donner une pilule à quelqu'un pour le sortir d'affaire, mais que les souffrances sont des souffrances de l'être entier. Alors, de médecin qu'il était, il est devenu aussi thérapeute et il a voulu soigner le corps dans son entier, l'être dans son entier. C'est lui qui disait, par exemple, si on veut arriver à la guérison, il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. Et voyez la différence qu'il peut y avoir. Alors, dans son livre sur la souffrance, il dit ceci, pourquoi donc faut-il du courage dans les épreuves? Eh bien, d'abord, parce qu'à les affronter courageusement, on souffre beaucoup moins que dans le désespoir. Et effectivement, ce que nous voulons rechercher dans le mode d'emploi d'origine du christianisme, c'est l'équipement dont nous avons besoin, c'est les armes dont nous avons besoin pour pouvoir y faire face courageusement et avec succès. Alors le christianisme a-t-il quelque chose à dire à celui qui souffre ? Alors, vous vous en doutez, oui, sans aucun doute. Le christianisme a quelque chose à dire à celui qui souffre. Et je crois que si nous voulons savoir ce que le christianisme, j'entends le vrai christianisme, a à dire à celui qui souffre, c'est ici qu'il faut aller le chercher, dans les Écritures. Nulle part ailleurs, nous ne pourrons trouver ce que le vrai christianisme a à nous dire, ce que Dieu finalement a à dire à l'être humain qui souffre aujourd'hui. Pour cela, j'aimerais vous inviter ce soir à faire avec moi une petite recherche dans le livre de Job. Le livre de Job se trouve à peu près au milieu de votre Bible dans l'Ancien Testament, juste avant le livre des Psaumes. Il est intéressant de noter que le livre de Job est le livre le plus ancien de toute la Bible. C'est-à-dire qu'il s'agit là du premier livre qui a été écrit d'ailleurs par Moïse, avant même que Moïse écrive le Pentateuque. Il s'agit donc là du plus ancien écrit biblique. Et déjà, cet élément-là attire mon attention parce que je réalise que la première chose que Dieu a voulu consigner par écrit, c'est la réponse que Dieu apporte. Que lui, il apporte à l'humanité par rapport au problème de la souffrance. Là, si vous voulez dire les choses autrement, la première réponse écrite que Dieu a donnée concerne le problème de la souffrance. Jusque-là, jusqu'à Moïse, toutes ces choses se transmettaient de bouche à oreille, avec beaucoup de fidélité, parce que les gens avaient le scrupule de transmettre la parole de Dieu avec beaucoup de précision. Mais lorsque Dieu a commencé à dire à Moïse « Maintenant tu écris » et qu'il a conservé ses écrits, c'est le problème de la souffrance qui a en premier attiré son attention parce qu'il savait que l'humanité en avait terriblement besoin. Alors, que nous dit le livre de Job? Le livre de Job est un livre assez grand, il y a 42 chapitres. Nous n'allons pas le regarder en entier ce soir. J'ai sélectionné un certain nombre de passages dans le livre de Job qui vont nous être utiles à comprendre ce que Dieu a à dire sur ce sujet de la souffrance. Le livre de Job reprend l'histoire d'un homme qui a vraisemblablement existé. Il n'y a pas de raison de douter de l'existence de cet homme. S'appelait-il Job ? Peu importe. Mais l'histoire de cet homme sert de tremplin à Moïse pour transmettre le message de Dieu par rapport à la souffrance. Alors, le livre de Job, dans le premier chapitre, nous présente un homme. Il nous est dit, « Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. » Alors, nous avons au départ la présentation d'un personnage qui est dans l'Ancien Testament, mais si vous me permettez cet anachronisme, c'est un bon chrétien. C'est un homme droit, c'est un homme juste, c'est un homme intègre. Il est présenté comme tel dès le premier verset du livre. Un homme sans reproche, un homme qui a un contact avec Dieu qui est d'une bonne qualité. Que se passe-t-il dans sa vie? Alors, nous avons dans le livre de Job quelque chose de particulièrement intéressant. C'est que lorsque nous lisons l'histoire d'un personnage, nous avons sa vie sous les yeux, mais dans le livre de Job, nous avons quelque chose que nous n'avons pas ailleurs. Dans les deux premiers chapitres du livre de Job, nous avons une vision de ce qui se passe dans la vie de Job, et puis nous avons une vision de ce qui se passe dans le ciel. Et puis on va revenir sur la terre voir la vie de Job, et puis on va remonter dans le ciel. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons la possibilité de voir sur la terre et de voir dans le ciel. Ce qui est extrêmement utile parce qu'en réalité, ce qui se passe d'un côté va nous expliquer ce qui se passe de l'autre. Job, lui, n'est pas dans cette situation privilégiée. Job, lui, ne voit que ce que l'être humain peut voir, c'est sa propre situation de souffrance. Mais nous avons, nous, avec ce recul du livre de Job, la possibilité de voir deux mondes différents qui sont fermés l'un par rapport à l'autre, mais dans lesquels nous pouvons, nous, voir et comprendre la raison de ce qui se passe dans l'autre. C'est ainsi que, il nous est dit dans le livre de Job, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. La vision que le livre de Job nous donne de ce qui se passe dans le ciel présente, si vous voulez, un grand comité dans le ciel. Dieu rassemble les responsables, les représentants des mondes qu'il a créés. Et le texte nous dit que le diable, Satan, arrive avec les autres. Et Dieu dit à Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Alors le discours continue. Satan répondit à l'Éternel, ce que je fais, le parcourir la terre, m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alors, le texte nous donne ça. Prenons un peu de recul par rapport à ce texte, essayons de comprendre ce qui se passe. Dieu rassemble les représentants des mondes qu'il a créés. Satan arrive et Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Réponse de Satan « Moi, je viens de la terre. La terre est mon domaine. J'y vais, j'y viens. La terre, c'est chez moi. Le monde, la terre, m'appartient. Et c'est en tant que tel que je viens. Je suis le patron de la terre. » Comment patron de la terre? Et c'est à ce moment-là que Dieu réagit. Il dit « Comment patron de la terre ?» Non, tu n'es pas le patron de la terre. Tu ne peux pas être le patron de la terre tant qu'il y a sur la terre des êtres humains qui m'appartiennent, dit Dieu. Exemple, au hasard, Job. Regarde Job. Job, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est comme si Dieu répondait à Satan, tu n'es pas le patron de la terre n'est pas ta propriété. Il y a sur la terre, exemple, Job, des hommes, des femmes qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas le représentant de la terre. Alors à ce moment-là, Satan ne se laisse pas faire comme ça, nous dit l'histoire. Et Satan s'attaque directement à Dieu pour défendre sa position à lui. Et il dit, oui, non mais, cette histoire d'amour entre toi et les hommes, qui t'obéissent par amour, parce que... Moi, j'y crois pas. Job, pas de problème. Maintenant, question. Est-ce que tu crois que c'est d'une manière désintéressée qui te sert? Est-ce que c'est du toc ou est-ce que c'est du vrai? Alors, Satan va là s'attaquer directement à Dieu par rapport à cette notion de souveraineté sur la terre. Et le discours continue. Satan explique sa raison. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan est en train de dire, écoute, ça marche pas ton affaire. C'est normal qu'il soit intègre et droit et fidèle et Regarde comme tu le bénis. Et quand on lit dans le premier chapitre de Job, on se rend compte que Job est un homme en plus qui est riche. Il a des troupeaux en grand nombre, il a des propriétés et il a en plus ce qui est le sommet de la gloire dans la culture dont on parle. Il a 10 enfants. Mais attendez, 7 fils, 3 filles. Ça, c'est le sommet de la gloire. Les filles, ça compte pas beaucoup. Désolé. Mais 7 fils. Alors ça, 7 fils, mais ça, c'est le sommet de la bénédiction, ça. 3 filles. Ça, c'est bonne mesure. 10 enfants. Et des troupeaux, et des serviteurs, et des richesses. Satan lui dit, regarde, il est gâté pourri, cet homme-là. Alors évidemment, c'est normal qu'il soit derrière toi, merci Seigneur, et qu'il soit fidèle, etc. Mais, touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan est en train de dire, ce que Job vit, ce n'est pas vrai. C'est par intérêt, c'est pas par amour pour toi. Maintenant, Dieu a un problème. Dieu a un problème dans cette situation, parce qu'il est directement, lui, attaqué dans cette affaire. Et étant directement attaqué, il ne peut pas se défendre lui-même. Imaginez que Dieu lui dise, « Mais si, si, je te promets, je t'assure, c'est un homme fidèle. » Ça vaut quoi, cette parole-là? Ça vaut rien. Dieu a, dans un sens, ce problème. Et il reçoit ce problème, il accepte ce problème que Satan lui présente. Alors il dit, voilà, ok, voici ce qui lui appartient, je te le livre. Remarquez une chose, dans le texte, Satan avait dit, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le diable, en réalité, demande à Dieu d'aller faire du mal à Job, retire tes bénédictions de cet homme-là. Et dans le texte, on comprend, Dieu dit, non, moi je ne touche pas à Job. Moi, je ne touche pas à Job. Si toi, tu veux faire ce que tu es capable de faire, la seule chose que tu es capable de faire, c'est dire du mal, je te donne une limite. Mais moi, je ne toucherai pas à Job. Vous remarquez? Satan demande, touche à ce qui lui appartient, et Dieu lui répond, une limite. Une première chose est intéressante à noter ici, c'est qu'en réalité, le diable n'est jamais qu'un chien qui ne peut aller plus loin que le bout de sa laisse. Et de l'autre côté de la laisse, il y a Dieu qui tient la chose. C'est une limite que Dieu lui impose et qu'il ne peut pas dépasser. Ça, c'est déjà quelque chose de réconfortant. Le diable voudrait arranger les choses à sa manière. Dieu a les choses en main. Et Dieu lui dit, voilà, voici ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu ne va pas toucher à Job. Par contre, Satan, lui, ayant une certaine marge de manœuvre, ne va pas se priver. Et l'histoire nous raconte que tout d'un coup, des tribus vont arriver, vont massacrer les serviteurs, vont voler les troupeaux. Et les uns après les autres, Les messagers vont venir apporter les nouvelles à Job, qu'il a perdu son troupeau de chèvres, qu'il a perdu son troupeau de chameaux, qu'il a perdu son troupeau d'ânes, les uns après les autres. La foudre va tomber sur certains, les autres vont être volés, les autres vont être exterminés, les serviteurs vont y passer aussi. Et Job reçoit ces nouvelles les unes après les autres, jusqu'à ce que finalement, un serviteur va venir lui dire, écoute, tes enfants avaient organisé une fête, ils étaient tous les 10 dans une maison, un vent violent est arrivé, une tempête épouvantable, la maison est tombée, et tes enfants sont tous morts. Alors, voilà le chapitre suivant. Nous sommes redescendus sur la terre. De cette entrevue dans le ciel qu'on a regardée, que se passe-t-il maintenant en conséquence sur la terre? Tout ça. Et Job est là. Lui, Job n'a pas vu ce que nous comprenons qui s'est passé dans le ciel. Et voilà la succession des catastrophes qui arrivent sur lui, qui lui tombent les unes après les autres. Job, nous dit le texte, reçoit toutes ces catastrophes. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Autrement dit, Satan qui avait dit à Dieu, si tu touches à ses possessions, à ce qu'il a, je suis sûr qu'il te maudit en face, a déjà perdu une bataille. Parce que Job, dans cette situation-là, n'a plus rien. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, les troupeaux correspondent au compte en banque, si vous voulez, aujourd'hui. Pas d'argent à ce moment-là, mais des richesses, des troupeaux. Job n'a plus rien. Il n'a plus de famille non plus. La seule chose, ce qui reste et qu'il aurait pu perdre, c'était sa femme. Et dans l'histoire, sa femme va jouer le jeu de Satan et le pousser dans le mauvais sens. C'est tout ce qui reste. L'histoire continue. Alors, on repart dans le ciel. On se retrouve de nouveau dans le fameux grand comité. Même scénario. Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » On a le même scénario. Satan arrive, Dieu fait ce grand comité avec tous les représentants des mondes. Satan arrive, Dieu lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, le monde, je représente la terre. » Et Dieu lui dit, « Non, regarde ce que tu as fait à Job. Il est resté fidèle. » Et c'est là que, mauvaise foi, Satan dit, « Ouais, non, mais bon, ça on a touché qu'à ses possessions. » Le texte continue, « Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » On a à peu près le même scénario, mais le diable, là encore, qui a perdu la bataille, revient et dit, « Oui, non, mais ça, c'est bon. » On n'a jamais touché qu'est-ce qui était autour de lui, c'est finalement, il a perdu ses choses, il a perdu ses troupeaux, il a perdu sa famille, c'est pas grave. On n'a pas encore touché à lui. Mais là, je te garantis, si tu touches à lui, il te maudit en face, c'est sûr. Il relance le défi, mais un peu plus loin. Et on se retrouve dans la même situation, où finalement, Dieu est interpellé, Dieu est attaqué, et il va tout simplement continuer l'expérience avec le diable. Il dit, ok, encore une fois, Dieu ne peut pas se... Merci bien. Dieu ne peut pas se défendre lui-même. Alors on va faire le test, on va essayer. Mais une limite, ne touche pas, épargne sa vie. On va aller un cran plus loin cette fois-ci. Il n'est pas seulement question de toucher à ce qui est autour de lui ou à sa famille. Il est question maintenant de toucher à ses os, à lui-même. Remarquez que Satan fait la même chose. Touche à ses os et à sa chair. Non. Non, non. Dieu dit, moi je ne vais pas toucher à Job. Dieu ne va pas toucher à Job. Et il va répondre à Satan en lui disant, « toi qui ne sais faire que le mal, si tu veux en faire, ce sera ta responsabilité. Moi, non. Regardez ici maintenant la suite du texte. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Vous avez remarqué comme le texte est clair. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. La Bible m'enseigne ici quelque chose que je considère comme extrêmement important. C'est la première leçon que nous devons apprendre dans le livre de Job. La souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Pourtant, lorsque la souffrance nous frappe, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ? Pourquoi moi et pas les autres ? N'est-ce pas ? C'est la question qui nous vient à l'esprit. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait un jour et qui nous est rapporté dans les évangiles ? Jésus disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette parole s'applique aussi à ce domaine-là. « Rendez au diable ce qui est à lui et rendez à Dieu ce qui est à lui. » Quand la souffrance nous frappe, il est important qu'ayant l'éclairage de la parole de Dieu, nous puissions dire non pas « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» mais « qu'est-ce que j'ai encore fait au diable pour qu'il vienne m'attaquer lui ?» C'est son problème. C'est pas le problème de Dieu. Et que dans notre esprit soit claire cette notion que la souffrance ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui. Ce n'est pas Dieu. Et la Bible essaie de mettre les choses au clair dans notre esprit pour nous faire comprendre que cette souffrance, c'est le diable qui l'a créée. Ce n'est pas Dieu. Et déjà, dès le départ, si cette idée est claire dans notre esprit, la souffrance est déjà moins lourde parce qu'on sait exactement d'où elle vient. Et dans ce sens-là, notre relation avec Dieu est déjà meilleure. On n'est pas en train de lever le poing vers le ciel en disant « Quoi encore ? Pourquoi me frappes-tu ?» Alors que l'Écriture est claire, c'est le diable qui nous frappe. Ce n'est pas Dieu. Et ça, je crois que c'est important de s'en souvenir, c'est important de le remarquer, c'est important surtout lorsque la souffrance frappe, de savoir rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais au diable ce qui est à lui. Maintenant, l'histoire continue et malheureusement, Job a des amis. Il a des amis, et comme on dit, quand on a des amis comme ça, on n'a plus besoin d'avoir des ennemis. Ce sont des gens bien disposés, ce sont des gens, trois amis qui vont venir, qui vont passer du temps avec lui, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le réconforter. Mais ces amis-là ont plus de problèmes, eux, que Job. Mais on va quand même regarder un petit peu ça. Ils vont venir encourager Job, et la façon dont ils vont parler à Job ressemble à la manière dont certains et certains chrétiens d'aujourd'hui parlent par rapport à la souffrance. Regardez ce qu'ils disent. Je résume les nombreux chapitres où ils s'adressent à Job de cette façon-là. « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui périt. Quels sont les justes qui sont exterminés ? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Autrement dit, les justes, il n'y a que du bien qui leur arrive. Vois ce qui te tombe sur la tête, tire tes conclusions. Texte suivant. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité. En d'autres termes, Job, tu es un immense pécheur. Tu as donné la face d'un homme intègre et droit, d'un bon chrétien, tout ça. Mais en fait, en cachette, tu es un pécheur épouvantable. Un jour, Dieu en a eu marre et il a dit stop et il t'a envoyé tout ce que tu mérites. Repends-toi en vitesse. Arrête le péché, éloigne-toi de l'iniquité. D'ailleurs, c'est pas dur. Les justes prospèrent et les mauvais sont malades et meurent. C'est ce qu'ils disent. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui périt. Pour eux, les choses sont comme coupées au couteau. C'est aussi simple que ça. Alors, dans cette culture-là, et ça va durer pendant des siècles, l'idée est très simple. Si vous êtes marié, que vous avez des enfants, que vous êtes riche, que vous êtes en bonne santé, vous êtes béni de Dieu. Si vous êtes célibataire, malade, pauvre, pas instruit, c'est que Dieu vous a maudit parce que vous êtes le pire des pécheurs que la terre ait porté, quoi. Ça, c'est les signes de la malédiction. Et cette mentalité est très... coupée au couteau, le bien, le mal. T'es en bonne santé, Dieu te bénit, t'es malade, Dieu te maudit. S'étend sur un grand laps de temps. Jésus a eu affaire à la même mentalité de son temps. Dans Luc au chapitre 13, il nous est parlé de gens, de juifs, qui se sont présentés au temple pour présenter leur sacrifice, leur offrande, et au moment où ils sont venus, les armées romaines sont arrivées, les ont égorgés dans le temple. Les juifs ont dit « Qu'est-ce que ces gens ont pu commettre comme péché pour être punis de manière pareille ?» Et puis, le texte qui est là, un petit peu, quelques versets après, reprend la même idée. Jésus dit, ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Une vieille tour dans Jérusalem, cette vieille tour tombe, 18 personnes meurent. Les Juifs disent, ces gens ont été punis très durement par Dieu. Ils avaient probablement dû pécher d'une façon assez remarquable. Jésus dit, non, pas du tout. Ils n'ont pas plus péché que vous, mais vous avez tous besoin de vous repentir, sinon vous périrez tous également. Un autre problème a surgi dans le ministère de Jésus. Jésus rencontre un jour un aveugle né. Il est né aveugle. Alors ça, c'est un énorme problème. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Et les disciples disent à Jésus, mais c'est bizarre, qui a péché? Lui ou ses parents? Parce que dans leur esprit, il est né pécheur. Mais alors, si Dieu le punit pour son péché, quand donc a-t-il péché? Avant sa naissance? Oui, mais s'il a péché avant sa naissance, c'est peut-être qu'il est puni pour le péché de ses parents. Alors dans leur esprit, un aveugle de naissance, c'est vraiment un problème. Et ils demandent à Jésus, mais qui a péché finalement? Puisqu'il est né comme ça, c'est lui ou ses parents? Et ça traduit bien cette mentalité. S'il est né aveugle, c'est qu'il est né avec la malédiction de Dieu nécessairement. Mais cette malédiction vient d'où? C'est un problème pour eux dans leur esprit, parce que les choses sont coupées au couteau aussi. Et Jésus répond, vous n'avez rien compris. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Et alors, problème supplémentaire, Jésus va guérir cet homme. Alors dans leur esprit, ça ne résout pas le problème, parce que voilà un homme qui est maudit par Dieu dès sa naissance. On ne sait pas à cause de quel péché il est maudit. Et voilà que Jésus arrive et qu'il le guérit, et qui par conséquent manifeste dans lui la bénédiction de Dieu. Les disciples et les juifs n'y comprennent plus rien. En fonction de cette mentalité très claire, tu es marié, tu as beaucoup d'enfants, tu es riche, tu es béni par Dieu. Tu es célibataire, tu es pauvre, tu n'as pas d'enfants, tu es maudit par Dieu. Et les amis de Job ont cette mentalité-là. Le problème, c'est que Dieu n'accepte absolument pas cette mentalité-là. À la fin du livre de Job, quand l'histoire est terminée, Dieu va s'adresser à ses amis-là. C'est-à-dire qu'il va parler à Job pour eux. Et c'est au dernier chapitre, Dieu dit « Ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » La fin du livre de Job nous dit clairement quelle est la position de Dieu par rapport à cette théologie des amis de Job. Jésus avait déjà exprimé ce qu'il en pensait, enfin plus tard bien entendu, mais à la fin du livre de Job, Dieu dit clairement que cette manière de concevoir les choses n'est absolument pas d'origine divine. C'est une déformation encore, si je puis dire, une des déformations du christianisme, si on peut prendre encore une fois cet anachronisme-là. Voilà le discours des amis de Job. Mais lui, Job, n'avale pas cette histoire-là. Pour lui, les choses sont claires. Et il va réagir contre ses amis. Il va les envoyer promener. Et pendant plusieurs chapitres, vous pouvez vous amuser à relire le livre de Job. Vous allez trouver des passages savoureux. Je vous en ai sélectionné un parmi tous ceux qui existent, pour vous montrer que Job ne se laisse pas marcher sur les pieds avec cette mentalité-là. « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. » Autrement dit, oui, beau discours. On échange de place pour voir un petit peu. Moi aussi, j'aurais quelque chose à vous dire. Il les envoie promener. Job n'accepte pas ce discours parce que Job est convaincu que la souffrance dont il est victime est une souffrance totalement injuste. Il n'y a pas dans sa vie, selon lui, une cause qui soit la cause d'un tel malheur qui puisse tomber sur lui. Et il l'envoie promener ses amis. Ah, vous me dites des bêtises. Moi aussi, je vais dire des bêtises le jour où vous y serez. Vous allez voir. Et dans d'autres endroits, Job est très clair. Il dit, vous savez quoi? Un jour, il y aura le jugement. Et il dit, mettez vos baskets ce jour-là. Parce que vous aurez honte de ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est mon interprétation du texte, évidemment. Vous l'entendez, vous le comprenez. Mais c'est le sens de ce que Job dit à ses amis. Le jour où le jugement arrive, là vous allez voir, vous allez payer pour les bêtises que vous avez dites sur moi. Donc Job ne reçoit pas ça. Il a conscience d'être innocent. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Mon âme est dégoûtée de la vie. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Et là, il s'adresse à Dieu. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je crie vers toi, tu ne réponds pas, tu deviens cruel contre moi. Job a conscience qu'il est innocent et il y a dans son esprit une sorte d'exigence vis-à-vis de Dieu malgré sa foi totale en lui. C'est comme si Job disait à Dieu, ce qui m'arrive est injuste. Je ne sais pas pourquoi tu m'envoies ça. Parce que dans son esprit, ça vient de Dieu. Et il dit, je veux que tu me donnes des comptes, maintenant. Puisque c'est une injustice, Job demande des comptes à Dieu, là, tout de suite. Explique-moi ça. Très exigeant. Il souffre, cet homme. Sa souffrance est épouvantable. Il a perdu sa famille, il a perdu tous ses biens. Il a été voir le docteur parce qu'il ne se sentait pas bien. Et le docteur lui a dit, mon ami, monsieur Job, je suis désolé, mais vous avez le cancer. Voilà ce qui lui arrive. L'histoire de Job, elle peut être très moderne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Martin Gray. C'est un juif qui a traversé la guerre. Sa famille a été exterminée pendant la guerre. Et puis, après la guerre, il a voulu recommencer sa vie. Il s'est remarié, il a une famille, il a reconstruit sa vie, son métier. Et un jour, sa famille était partie en vacances dans le sud de la France. Lui était resté au travail. Et dans les incendies du sud de la France, sa famille entière a été exterminé sa propriété, tout. Et du jour au lendemain, cet homme se retrouve de nouveau à la case départ. Lui qui a écrit ce livre au nom de tous les miens, dans lequel il y a ce cri à Dieu de la souffrance. Pourquoi ? Dans lequel il exprime presque cette même idée, mais enfin, je m'en suis sorti tout juste une première fois. Est-ce que tu m'en veux de m'en sortir pour m'accabler encore une deuxième fois ? Et Martin Gray se retrouve à la case départ, à la case zéro, de nouveau. Ces histoires, vous pouvez les trouver constamment dans le journal, d'une manière ou d'une autre. Elles sont courantes, elles sont modernes, où des gens, du jour au lendemain, perdent tout. Ils sont tellement mal, ils vont chez le médecin leur dit, écoutez mes amis, je suis désolé de vous dire, mais le scanner révèle que vous avez un cancer, et puis on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là ? À qui est-ce que vous criez ? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Et Job est dans cette situation-là. Job est en train de crier son innocence. Il crie vers Dieu et il dit, Seigneur, c'est injuste. Donne-moi des comptes là-dessus, maintenant. Je veux savoir pourquoi. Et c'est notre réaction aussi quand la souffrance nous frappe. Qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais Job, en tout ça, nous dit le texte, ne pêche pas contre Dieu. Il ne perd pas sa foi contre Dieu. Maintenant, l'histoire de Job va basculer à un moment précis dans le livre. C'est pas ce texte-là, c'est un autre. Ce texte-là montre justement cette foi puissante de Job, malgré la souffrance. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais il a une assurance. C'est que s'il meurt, il va ressusciter. Vous remarquez en passant que Job ne croit pas à la réincarnation. Il croit à la résurrection. Et il le dit. Mes yeux le verront, pas ceux d'un autre. Moi, il croit à la résurrection. On est là dans le plus ancien livre de la Bible, où la résurrection est déjà quelque chose de très clair dans l'esprit des vrais croyants. Il sait qu'il y aura un jugement. Il sait que même s'il meurt, Dieu lui sera favorable parce qu'il n'est pas dans ses torts, en ce qui le concerne, par rapport à la souffrance qui lui arrive. Voyez donc chez cet homme qui souffre terriblement dans son corps, en plus du reste, une foi, une assurance en Dieu qui est complète. Maintenant, le texte qui fait basculer toute l'histoire de Job, c'est celui-ci dans Job chapitre 13, il dit, voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Et il parle de Dieu. Le jour où Job dit ceci, le diable a perdu la guerre. Souvenez-vous, le diable disait, « Oh, je suis sûr, si tu touches à ce qui appartient, il va te maudire en face. » Il a tout perdu. Il est resté fidèle à Dieu. Le diable revient lui dit, « Oui, non, mais bon, ça, c'était pas grave, c'était un petit détail. Il faut que tu touches à lui, là, que ça le concerne lui. » Et il a un cancer, phase terminale. Et il reste fidèle à Dieu. Maintenant, le diable, il dit quoi ? Dieu peut s'adresser à lui, dit, dis donc, tu étais venu comme représentant de la terre. Tu as prétendu que la terre était à toi. Mais il y a des gens sur la terre qui ne t'appartiennent pas. Par exemple, Job. Job, tu as détruit tout ce qu'il possédait. Tu as détruit sa vie, sa famille, ses possessions. Il est intègre et droit. Maintenant, dehors. Maintenant, Dieu peut mettre le diable dehors. Il a perdu la guerre. Que peut dire le diable dans cette situation-là ? Rien. Parce qu'il n'y a plus rien de favorable dans la vie de Job. Plus rien. Satan ne peut plus dire « Oui, mais c'est d'une manière désintéressée parce que tu l'as béni tellement, il y a tellement de choses qu'il a, toutes ces bénédictions-là, c'est pour ça qu'il a intérêt à te suivre. » Quel intérêt est-ce qu'il a à suivre Dieu dans cette condition-là? Plus rien. Le diable a perdu la guerre. Le jour où Job a dit « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Maintenant, quand on lit le livre de Job, on est impressionné parce qu'on n'entend pas Dieu. Dieu est absent. Vous lisez chapitre après chapitre, et il y en a 42. Et il faudra arriver au chapitre 38 pour que, enfin, Dieu parle. Et quand on lit le livre de Job de cette manière-là, on vit la même chose que ce que l'on vit dans la souffrance, c'est-à-dire que on attend que Dieu bouge, on attend que Dieu fasse quelque chose, on attend que Dieu réponde à la prière. Vous avez remarqué dans la souffrance, quand on prie, on a l'impression que nos prières s'arrêtent au plafond. Dieu ne bouge pas, Dieu ne répond pas, Dieu ne dit rien, il ne se passe rien. On dit, mais enfin, es-tu là? Quand on lit le livre de Job, c'est exactement l'impression qu'on a. Job est là, il ne sait plus quoi dire à Dieu, il souffre. Silence. Quand finalement, enfin, au chapitre 38, Dieu réagit. Alors on pourrait s'attendre à ce que Dieu, dans sa réaction, vienne et court vers son ami Job et lui dit « Écoute, mon pauvre ami, je sais que tu souffres, je n'ai pas pu venir plus tôt, mais mon pauvre petit Job, et qu'il vienne cajoler son serviteur Job, le réconforter, le plaindre, le soutenir, etc. » Non, rien de tout ça. Il arrive et il se fait encore enguirlander. Job 38. L'Éternel répondit à Job « Du milieu de la tempête, s'il vous plaît. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? » Et pendant tout le chapitre 38, pendant tout le chapitre 39, pendant tout le chapitre 40, Dieu va accabler Job d'une liste interminable de questions sur la nature qui l'entoure. Est-ce que tu sais pourquoi la biche m'ébat après tant de temps? Tu ne le sais pas. Hein? Tu sais pourquoi la mer vient jusque-là et pas plus loin? Tu ne le sais pas. Okay? Les étoiles, tu sais pourquoi elles tournent comme ça dans le ciel et pas autrement? Tu ne le sais pas. Pendant 3 chapitres. Et il lui dit, mais enfin, c'est qui ce bonhomme qui est en train de dire des bêtises là? Qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Quand Dieu, enfin, quand Dieu parle, il s'approche de Job et lui dit « Dis donc, t'as fini de dire des bêtises sur moi, toi ?» C'est pas exactement le genre de réponse que l'on imaginerait que Dieu va donner quand, après avoir prié je ne sais combien de temps, Job demande le secours de Dieu. Ce n'est pas non plus exactement le genre de réponse que l'on attendrait de Dieu quand on est écroulé sous la souffrance et qu'on demande à Dieu de répondre, de dire quelque chose et d'intervenir. Non mais dis donc, t'as fini de dire des bêtises sur moi. T'as fini de dire des bêtises sur mon plan, sur mes projets. Tu ne connais rien. Alors, à la fin de ce grand discours, Job réagit et il dit, non c'est pas ce texte-là, Job réagit et il dit, mais « Je ne dirai plus rien, Seigneur. Je mets ma main sur la bouche. Je me tais. » Jésus dit la même chose à ses disciples d'une façon différente. Et c'est ce texte qui est ici dans l'évangile de Jean, où Jésus dit « Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» En fait, ce que Dieu dit à Job, c'est ceci. Il dit « Écoute, mon petit bonhomme, tu n'es même pas capable de comprendre les choses simples de la création dans laquelle tu vis et que tu as sous les yeux. Et tu voudrais que je t'explique ce qui se passe dans le ciel que tu ne vois pas. » C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous ne croyez même pas les choses terrestres que je vous explique. Et vous voudriez que je vous explique les choses célestes pour comprendre le comment du pourquoi et le pourquoi du comment de toutes choses. Dieu est en train de remettre Job à sa place et lui dit « Écoute, même si je t'expliquais, tu n'y comprendrais rien. C'est impressionnant de voir comment Dieu s'approche de Job et lui ferme la bouche, finalement. Il lui ferme la bouche. Et lui répond avec un argument écrasant et disant, tu ne sais pas expliquer ce que tu vois, tu veux que je t'explique ce que tu ne vois pas. Tu veux que je t'explique le comment, du pourquoi, du problème de la souffrance qui a son origine dans le ciel, et tu me demandes des comptes à moi, toi, homme. Tout d'un coup, Job se retrouve assis à sa place, et Dieu se retrouve à la sienne. Maintenant, Dieu n'est pas en train d'accuser Job, de le condamner, de le mépriser. Parce que Dieu, on l'a vu hier, a un projet pour l'être humain. Et ce projet, c'est le projet de quelqu'un qui l'aime et qui a été créé à son image. Dans Jérémie, nous avons ce texte, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour de Dieu pour l'être humain est indéfectible. Et il est ainsi envers Job, en particulier pour ceux qui souffrent. Maintenant, cette deuxième leçon du livre de Job est importante. Dieu nous aime quoi qu'il arrive. Ça nous est difficile de le croire quand la souffrance nous tombe sur la tête. Ça a été difficile à Job de le croire quand il a vu cette souffrance l'envahir lui-même et qu'il a demandé des comptes à Dieu. Cependant, le livre de Job nous enseigne cela. Dieu nous aime quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas fini. Cette réponse que Dieu donne à Job, c'est en réalité une réponse que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, 1500 ans plus tard. Lisons ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre Paul avait un problème que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas bien sûrs, probablement un problème avec ses yeux, qui l'empêchait d'accomplir beaucoup de choses et qui le rendait dépendant des autres. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il a prié trois fois le Seigneur pour être guéri. Nous ne savons pas comment Dieu s'est adressé à lui pour lui donner la réponse. Mais dans la tête de l'apôtre Paul, la réponse était claire. Elle est très simple. Elle est très courte. Ma grâce te suffit. C'est la même réponse que Dieu avait donnée à Job 1500 ans plus tôt. En d'autres termes, pauvre humain, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe derrière la scène où tu es et où tu souffres. Si je te l'expliquais, tu ne comprendrais pas, parce que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu nous dit une chose, fais-moi confiance jusqu'au bout. Là, je m'occuperai des choses pour les remettre d'aplomb. Ce que Dieu dit à Job, ce que Dieu dit à Paul, ce que Dieu dit à tous ceux qui sont dans la souffrance et qui croient en lui, c'est ceci. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'au bout du compte, tu sois sauvé éternellement. Sûr, je voudrais que ta vie soit autrement. Mais pour des raisons que Dieu ne peut nous expliquer, la souffrance a frappé. Nous savons que c'est le diable qui en est la source. Et Dieu nous dit, la grâce que je t'ai donnée, par laquelle, ayant accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu as cette assurance de la vie éternelle au bout du compte, c'est l'essentiel. Le reste, malgré tout, est secondaire. Fais-moi confiance jusqu'au bout, je m'en occupe. Vous remarquez ici qu'on est en train de parler de foi. Hier, je vous faisais remarquer la différence qu'il y a entre foi et croyance. Ici, on a la foi. On n'est pas en train de parler d'une liste de doctrines auxquelles il faut souscrire. Je crois ceci, je crois cela. On est loin de ça, vous remarquez. On est en train de parler de la foi vivante, là. La foi, si vous voulez, s'illustre de la manière suivante. On pourrait trouver toutes sortes d'illustrations, mais l'illustration que je vous donne est peut-être celle qui, pour moi, parle le plus. Parce que j'ai dû prendre l'avion pas mal de fois dans ma vie. Quand un pilote doit poser son avion à Montréal, qui neige, qui a du brouillard, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, il approche, et quand il approche de l'aéroport, il ouvre son hublot, il regarde dehors pour poser son affaire, là. Moi, je ne monte pas avec un pilote comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'aurait pas de fenêtre dans son cockpit, ce serait exactement la même chose. Aucun pilote ne va regarder par la fenêtre pour savoir comment il va poser son avion sur la piste. Il va travailler aux instruments. Vous êtes pilote, ça ? Il va travailler aux instruments. Et quand un pilote travaille aux instruments, il ne fait pas confiance à ses sens, ni à sa vue, ni à son sens de savoir où est le ciel et où est la terre. Comment va-t-il poser son avion, le pilote ? En travaillant uniquement avec les yeux rivés sur les instruments qu'il a sous son tableau de bord, qui vont lui dire à quelle hauteur il est, à quelle vitesse il va, quelle est la position de son avion, qui vont lui donner par radar la place de la piste, et qui vont lui donner toutes les indications pour poser ça comme une fleur sur la piste. Ça, c'est la foi. Fonctionner par les sens. C'est comme si le pilote va poser son avion en regardant par le hublot comment ça se passe dehors. Et pourtant, aujourd'hui, combien de fois on entend des gens qui disent « Je l'ai vu, je l'ai senti, je le sais parce que j'ai vu. » J'ai vu quoi ? Le chrétien qui a la foi travaille aux instruments. Et les instruments, ils sont là. C'est la révélation de Dieu qui nous donne l'heure juste, pas nos sens. Pas non plus ce que les hommes racontent aujourd'hui et même ce que le christianisme nous présente comme étant la vérité pour aujourd'hui. On l'a vu hier, cette vérité va changer selon toutes les cultures. On va mettre dans notre bouteille n'importe quoi et la culture suivante va faire la même chose. À quoi est-ce que je vais me fier, moi ? Aux instruments. C'est la seule parole de Dieu qui va me permettre de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux et de pouvoir diriger ma vie. Non pas d'après des sensations, non pas d'après des sentiments qui vont être aujourd'hui comme ceci, demain autrement, mais uniquement d'après les instruments qui sont la parole indéfectible de Dieu. C'est exactement de ça dont on parle. Dieu est en train de dire à Job, Dieu est en train de dire à Paul, Dieu est en train de dire aux chrétiens d'aujourd'hui qui souffrent, faites-moi confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez entendre ou ressentir. Fiez-vous à ce que la parole de Dieu vous dit. Fonctionnez aux instruments. C'est la seule manière sécuritaire pour un chrétien de piloter son avion spirituel. La seule manière. Ma grâce te suffit. Nous allons regarder encore un aspect, mais cette grâce, nous allons essayer de la comprendre encore la prochaine fois parce que nous avons besoin de découvrir le Christ du christianisme. Cette grâce, elle est appuyée sur ce que le Christ a fait pour chaque croyant qui veut le recevoir. Si dans la souffrance, nous ne comprenons pas, Dieu a un plan et il nous propose de lui faire entièrement confiance. C'est la troisième leçon, c'est le troisième enseignement du livre de Job. Maintenant, l'histoire de Job, telle qu'elle nous est racontée dans le livre de Job, quand on le prend dans son ensemble, est extrêmement intéressante parce qu'elle représente tout à fait un tribunal, un jugement. La notion de jugement dans la Bible est très fréquente. On la retrouve partout, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et cette notion de jugement a été souvent rejetée par le christianisme parce que on a pensé jugement en termes de ce que nous vivons, nous, dans les jugements ici, où le jugement, c'est de savoir quelle condamnation on va ramasser. Or, dans les Écritures, la notion de jugement n'a rien à voir avec ça. J'aimerais vous donner simplement un exemple dans le livre des Psaumes, et il y en a un nombre incalculable. Simplement dans le livre des Psaumes, vous donner un petit exemple pour vous montrer que cette notion de jugement dans la Bible ne doit pas être comprise comme nous comprenons la notion de jugement dans notre temps. Psaume 98, on pourrait en lire beaucoup d'autres. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les campagnes, toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Dans la parole de Dieu, le jugement de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'être humain, en tout cas aux croyants. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est présenté ces martyrs qui demandent à Dieu « Combien de temps vas-tu encore attendre avant de nous juger ?» Parce que le jugement de Dieu dans la Bible, c'est enfin le moment où Dieu va réhabiliter les croyants dans leur titre d'enfant de Dieu. Ce n'est pas le moment de la condamnation, c'est le moment de la réhabilitation. Et dans ce sens-là, j'attends le jugement avec impatience. Le jour où Dieu va enfin dire à ses enfants, « Voilà, vous redevenez maintenant, à l'abri du mal et de Satan, les enfants de Dieu pleinement. » J'attends ça. J'attends le jugement de Dieu avec impatience. Mais pour attendre le jugement de Dieu, c'est évident. Il faut que nous ayons reçu la grâce qu'il nous a proposée. Elle est en Jésus-Christ. Maintenant, ce jugement de Dieu se présente dans le livre de Job comme une salle de tribunal. Alors, je prends cette fois-ci uniquement le livre de Job. Spécifiquement le livre de Job. Et je regarde ce qui se passe dans le livre de Job. Nous avons un jugement. Et nous avons dans cette salle du jugement, évidemment, le procureur à charge, l'accusateur. Nous avons l'accusé. Nous avons les juges. Et nous avons l'avocat. Maintenant, on va mettre des noms. Dans le livre de Job, qui est le procureur à charge? Qui est celui qui accuse et qui accuse constamment et qui est présenté dans la Bible comme l'accusateur des frères? C'est toujours le même. On sait qui c'est Satan. Le livre de Job nous le dit au départ. Qui est maintenant l'accusé? Dans cette histoire, c'est Dieu qui est accusé. C'est Dieu qui est vers qui le diable pointe le doigt et dit ton histoire d'amour avec les hommes. Cette histoire-là, niette, c'est de la blague, je n'y crois pas, c'est moi qui possède la terre, c'est pas toi. C'est Dieu qui est accusé. Le défi est en fait lancé par Satan contre Dieu. Et on se retrouve dans cette situation invraisemblable où c'est Dieu qui est au banc des accusés. Qui sont maintenant les juges? Dans cette histoire, c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais les juges vont être ceux qui sont dans cette situation où eux vont pouvoir voir ce qui se passe sur la terre, voir ce qui se passe dans le ciel, être témoins du conflit et voir le panorama général de cette histoire, être eux hors de l'affaire et regarder qui va être vainqueur dans ce conflit. Le début du livre de Job nous parle de ceux qui sont dans cette situation-là, qui vont être les juges de ce grand conflit, voyant tous les côtés de la situation, ce sont tous ces êtres célestes qui ont été convoqués par Dieu et qui sont témoins de ce conflit, que l'on va appeler les anges, pour prendre un raccourci si vous voulez bien. Il y a peut-être plus que ça, tous ces êtres célestes qui se rassemblent dans ce grand comité autour de Dieu et qui sont témoins de ce défi lancé à Dieu, qui sont témoins de la misère de Job. Les anges vont être les juges de cette affaire. Mais dites-moi maintenant, qui est l'avocat dans cette histoire, dans ce contexte-là? Dans ce contexte-ci, qui est l'avocat? Qui va prendre la défense de Dieu? Mais mes amis, on est en train de découvrir une chose. C'est que dans cette histoire, c'est Job qui devient l'avocat de Dieu. Et nous découvrons ici quelque chose d'extraordinaire. Dieu, dans sa toute puissance, dans sa toute sagesse, va chercher des gens comme vous et moi, dans la souffrance, pour prendre la défense de son nom et de son honneur et de sa justice devant l'univers entier lorsqu'on est accablé par la souffrance. C'est incroyable. L'avocat de Dieu, c'est Job. L'avocat de Dieu, c'est chaque croyant qui est frappé par le diable et qui souffre et qui, dans sa situation de souffrance, a entre les mains un pouvoir énorme que Dieu lui a remis. Si dans notre souffrance, mes amis, nous rejetons Dieu et nous disons ce Dieu-là, si c'est un Dieu comme ça qui me laisse tomber, je n'en veux pas, et si j'en vois Dieu promener, que je l'abandonne, le diable dit, ah, je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit que c'est du faux. Retire tes bénédictions, retire ta protection, et quand ça va bien, quand ça va mal, il te laisse tomber. Est-ce qu'il t'aime celui-là? Mon œil. Et de cette manière-là, Satan peut dire à Dieu, tu vois que la terre m'appartient en fait, et tu vois que celui-ci, que celle-ci, malgré les apparences de piété, tout ça, il m'appartient à moi. Ce jour-là, c'est Dieu qui a la bouche fermée. Mais au contraire, si comme Job, lorsque nous sommes dans la souffrance, et que nous ne comprenons pas pourquoi, et que nous ne savons pas d'où peut venir ce malheur, ces malheurs qui nous frappent, si dans la souffrance, nous sommes capables de dire comme Job, même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui, à ce moment-là, Dieu peut s'approcher du diable et dire, dis donc, tu as quoi à dire maintenant sur lui? C'est le diable qui a la bouche fermée et Dieu peut lui dire, dehors. Tout d'un coup, je réalise que le chrétien qui souffre reçoit de la part de Dieu une confiance incroyable par laquelle le croyant peut fermer la bouche à Dieu ou au diable suivant l'attitude qu'il va avoir dans la souffrance vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez quel immense amour, quelle immense responsabilité, quelle immense confiance Dieu place sur le croyant qui souffre. Et lorsque nous crions à lui pour lui dire « Seigneur, pourquoi ? Seigneur, comment ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dieu répond et dit « Écoute, je ne peux pas t'expliquer. Ma grâce te suffit. Fais-moi confiance jusqu'au bout. Je m'en occuperai au bout. Mais aujourd'hui, fais-moi confiance jusqu'au bout. L'essentiel, c'est qu'ayant saisi la grâce par Jésus-Christ, tu sois sauvé. Le reste, je m'en occupe. » Ça fait peser sur nos épaules, dans un sens, un poids de responsabilité et d'amour extraordinaire. Qui est donc ce Dieu qui est capable de faire confiance à des gens comme vous et moi, pour faire la démonstration devant l'univers entier que nous l'aimons vraiment et qu'il est un Dieu d'amour? Vous savez, quand vous allez rencontrer dans un hôpital quelqu'un qui est au fond de son lit, quelqu'un qui n'a pas de famille, quelqu'un qui n'est pas visité par personne, quelqu'un qui est là perdu au fond d'un hôpital que personne ne connaît et qui sait que dans quelques semaines, il fermera les yeux. Vous allez voir cette personne, cet homme ou cette femme, ils se sont oubliés du monde, mis à l'écart de la société pour ne pas gêner le fonctionnement normal de tous ceux qui veulent gagner de l'argent dans le monde. À l'écart de tout, oubliés du monde, oubliés des hommes, oubliés de Dieu. Et quand vous allez expliquer à ce chrétien qui souffre qu'en réalité, il a l'impression peut-être que sa souffrance ne sert à personne, parce qu'il n'y a personne qui le voit, personne qui le connaît. Allez maintenant lui expliquer que sa souffrance, elle est extrêmement importante à Dieu, parce qu'elle est vue de l'univers entier. Et l'univers entier a les yeux rivés sur cette personne, sur ce croyant qui souffre, comme sur tous les autres, pour savoir si c'est la bouche de Dieu ou la bouche du diable qui va être fermée. Même si quelqu'un au fond de son lit a l'impression que sa souffrance ne sert à personne sur la terre, elle est essentielle dans l'univers. Elle est essentielle à Dieu qui a été attaqué. Elle est essentielle à Dieu dont l'honneur, l'amour est en jeu. Et voilà que moi qui suis oublié des hommes, et entre les mains le pouvoir de dire à l'univers entier, Dieu est un Dieu d'amour. Extraordinaire. Seulement, nous découvrons dans les Écritures que l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la souffrance, Dieu compte sur nous pour être son avocat, pas devant les hommes, devant l'univers entier. Derrière chaque Job, derrière Job, il y a chaque croyant qui souffre aujourd'hui. Maintenant, Dieu a promis que le jugement, un jour, il le prendrait lui en main. Je vous disais tout à l'heure que le diable n'est jamais qu'un chien que Dieu tient au bout de sa laisse. Un jour, Dieu va accomplir sa promesse. Celui qui nous a dit « Ma grâce te suffit » va un jour remettre les choses à l'endroit. Et il y aura un jugement. Mais un jour, le jugement va prendre une allure un peu différente. Il y aura toujours le procureur à charge, l'accusé, les juges et l'avocat. Le personnel sera là, mais les chaises vont peut-être tourner un peu. En ce qui concerne l'accusateur, c'est toujours le même. On est au clair là-dessus. Mais un jour, au banc des accusés, c'est moi qui vais arriver. Parce que Dieu va un jour faire le jugement de ce monde. Je vais être un jour au banc des accusés. Dieu sera le juge. Il va reprendre sa place dans le juge de l'univers. Mais maintenant, mes amis, Satan est l'accusateur, Dieu est le juge, l'accusé c'est moi, mais alors qui va être l'avocat? Ce jour-là, celui qui m'a donné sa grâce pour que je sois sauvé sera mon avocat. C'est lui qui sera mon avocat. Mais là, il y a quelque chose de curieux. C'est que, juste avant le tribunal, l'avocat va venir me voir, il va me dire, « Bon, mon cher ami, il faut qu'on discute un peu, parce que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à te donner. Laquelle tu veux d'abord ?» Bon, allons-y pour la mauvaise. Et l'avocat va me dire, je paraphrase les Écritures, là, vous me comprenez. L'avocat va me dire, la mauvaise nouvelle, c'est que ton cas est perdu. Parce que tu ne peux pas t'en sortir. C'est trop grave. Parce que la conséquence du péché dans lequel tu es, c'est la mort, nous dit les Écritures. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tu veux la bonne maintenant? Vas-y pour la bonne, s'il en est. La bonne nouvelle, me dit mon avocat, c'est que quand tu vas rentrer dans la salle du tribunal, tu regarderas bien qui est assis dans le siège du juge. Parce que dans le siège du juge, c'est moi qui serai assis. Et il se trouve que moi qui suis ton avocat, je suis en même temps ton juge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez perdre votre cas dans cette situation-là? Si votre avocat, celui qui est entièrement de votre côté, c'est en même temps celui qui vous juge, qu'est-ce que vous risquez? La seule chose que vous risquez, c'est de gagner en plein. Et c'est exactement le message que l'Évangile est en train de nous donner. Nous avons ce texte dans les Évangiles où il nous est dit, en parlant du Christ, « Il lui a été donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Il a marché dans nos chaussures, il a été vainqueur et il a reçu le pouvoir de juger. » Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ce jour-là, maintenant, Dieu remet les choses à l'endroit. Notre avocat et notre juge, c'est le même. Et le jour où mon nom passe en jugement, l'avocat se lève et dit « Stop, celui-là, il m'appartient. Il est à moi, celui-là. » D'ailleurs, il a pris ma défense à moi dans la souffrance. Maintenant, je suis son garant, son avocat. Il est à moi. Et ce n'est même pas moi qui vais me présenter au jugement, c'est lui qui va se présenter à ma place. C'est lui qui va rendre compte de mon sort. Et c'est pour ça qu'il m'a dit dans la souffrance, « Ma grâce te suffit. » Parce que je vais m'occuper de toi jusqu'au bout, et confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est là. C'est le moment où l'avocat va se lever et dire, celui-là, il est à moi. Il a contribué à prendre ma défense devant l'univers entier, alors que le diable avait frappé dans la souffrance. Maintenant, mon sacrifice est pour lui aussi. Un jour, les choses tournent, et de cette manière-là, je sais que le peu que je peux faire pour le Christ dans ma vie de souffrance n'est pas à mesurer avec ce que le Christ fait pour moi, pour la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus avait dit qu'il en était ainsi. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » L'évangile de Luc a le même texte. Et nous retrouvons les juges dont nous avions tout à l'heure parlé. Je vous le dis. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi le Fils de l'homme, pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Nous avons un avocat auprès du Père. Notre attitude aujourd'hui, dans la souffrance, est une attitude qui, devant l'univers entier, va dire si oui ou si non, nous avons de l'amour réel pour celui qui a été capable de donner sa vie pour nous sur la croix. C'est la raison pour laquelle cette phrase de l'apôtre Paul me paraît appropriée en terminant ce soir, où l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, une vie de souffrance, lui, persécuteur qu'il était, a eu sa dose de persécution, de misère et de souffrance. Terminant sa vie, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le chrétien qui souffre aujourd'hui est-il mieux équipé que celui qui ne croit pas? Le chrétien d'aujourd'hui qui souffre a de son côté un avocat qui est en même temps son juge, qui a donné sa vie pour lui et qui se porte garant de sa vie éternelle. La réponse que les Écritures nous donnent, c'est la réponse que Dieu lui-même a donnée. « Ma grâce te suffit. » Est-ce ce que je souhaite, c'est que les armes que la parole de Dieu, que le mode d'emploi nous donne, vous donne la force de traverser la souffrance, quelle qu'elle soit. Merci.